La menace allemande grandit sans cesse. Laval cherche à former une vaste alliance autour de la France. Il signe avec Mussolini les accords de Rome. Puis Mussolini signe les accords de Stresa avec Flandin et le Britannique Baldwin.
We shall persist in our attempts to promote peace and disarmament. And I believe that ultimately we shall succeed.
Qui craint le grand méchant loup, c'est peut-être vous, ce n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup, tra-la-la-la-la. Si jamais nous le rencontrons, chouette mignon, petit cochon, à sa barbe nous chanterons, tra-la-la-la-la.
Mais dès le 18 juin, les Anglais signent un accord naval avec Hitler, sans même en prévenir Rome ni Paris. L'URSS de Staline a été admise en 1934 à la SDN, où elle est représentée par Litvinov.
Et si l'on en a la volonté ferme, et si tous les membres sont désirés de collaborer étroitement, on peut faire beaucoup de choses pour réduire au minimum les dangers de guerre.
Histoire de voir ce que ça donnera, histoire de voir si je rendrai. Suivons de loin, ma foi nous verrons bien, car qui ne risque rien n'a rien.
Laval se rend à Moscou pour signer avec Staline un pacte d'assistance assez vague.
Profondément touché de l'accueil qui m'a été fait par le gouvernement soviétique et par la population de Moscou. Je n'oublierai jamais cet accueil, l'amitié scellée entre nos deux pays.
Et je me disais, pendant la polka, tandis que nous sautions tous deux en cadence, elle est épatante, cette petite femme-là, c'est phénoménal la grâce qu'elle a, elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau.
Staline autorise alors les communistes français à approuver la défense nationale. Et Duclos découvre les joies du patriotisme cocardier.
Symbole glorieux des luttes de nos pères, et désormais réconcilié avec le drapeau rouge qui symbolise à la fois les sacrifices et les espérances du peuple.
1935, le 17 juillet, Laval, devenu président du Conseil, publie une série de décrets-lois pour une stabilisation monétaire par l'austérité et la déflation. Ce qui est terriblement impopulaire à quelques mois des élections.
Les décrets que nous avons signés exigent de vous de lourds sacrifices. À l'exception des assistés, des chômeurs, des retraités, ils atteignent tous les Français. Certaines de nos décisions vous paraîtront audacieuses. Elles le sont en effet.
Tout ça n'a pas d'importance car si l'on réfléchit bien,
ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine.
Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma.
Mussolini a cru à Stresa que la Grande-Bretagne ne s'opposerait pas à une mainmise italienne sur l'Éthiopie féodale. Le 2 octobre 1935, il lance ses troupes en Éthiopie.
Abbiamo pazientato mentre si stringeva attorno di noi sempre più rigido il cerchio che vuole soffocare la nostra irrompente vitalità. O l'Etiopia! Abbiamo pazientato 40 anni! Ora basta!
Io ti saluto, vado in Abissinia, cara Virginia, ma tornerò. Appena giunto nell'accampamento, dal reggimento ti scriverò. Ti manderò dall'Africa un bel fior, raccolto sotto il ciel dell'Ecator.
Mais aussitôt, Eden demande à la SDN le vote de sanctions contre l'agresseur italien.
Les joujoux font grève, ils en ont assez d'être tracassés et fracassés. Le le ballon qu'on crève, la poupée qu'on bat, sont lassés des jeux et des combats.
Ces sanctions, purement économiques, indignent Mussolini et sont d'ailleurs inopérantes, faute d'un embargo sur le pétrole. Laval voit s'effondrer tout son édifice diplomatique et doit se retirer.
Cependant, la France s'inquiète des préparatifs allemands sur le Rhin et Flandin interroge anxieusement les Anglais lorsqu'il vient à Londres pour les funérailles du roi George V qui meurt le 20 janvier 1936.
Les cloches sonnent, les canons sonnent dans les phares. Qui est le même qui servit pour les funérailles de la reine Victoria et pour celles du roi Édouard VII, est tiré par des marins devant 104 hommes qui tirent sur les longues cordes blanches, derrière 40 hommes.
La Grande-Bretagne nous refuse toute aide. De leur côté, les militaires français exigent une mobilisation générale pour entreprendre la moindre action. Le général Gamelin a peur d'une Wehrmacht encore embryonnaire.
Lorsque le 7 mars 1936, Hitler dénonce les accords de Locarno et remilitarise la Rhénanie, il ne reste à Sarrault que de belles phrases à lui opposer.
Le seul fait, comme mépris d'engagement solennel, des soldats allemands sont maintenant installés sur les bords du Rhin, interdit pour le moment la négociation. Nous ne sommes pas disposés à laisser placer Strasbourg sous le feu du canon allemand.
Les Français ont perdu sans réagir le dernier atout hérité de la victoire. La campagne électorale les passionne bien plus. Écoutons ce qu'en pense le ministre de l'Air, Marcel Déat, candidat du Front Populaire.
Il y a beaucoup d'héritaires, je crois. Pour environ 32 000. C'est à peu près l'effectif de l'armée de l'air. Mais je dois dire qu'en ce moment, l'armée des électeurs m'occupe davantage.
Ce Front populaire est l'alliance électorale conclue entre radicaux, socialistes et communistes. C'est Léon Blum qui en est la figure dirigeante.
Le socialisme est né de la conscience de l'égalité naturelle. Alors que la société où nous vivons est tout entière fondée sur le privilège.
Les communistes entrent pour la première fois dans une alliance électorale. Maurice Thorèse veut faire payer les riches.
Nous luttons pour que les ouvriers ne reçoivent plus des salaires de famine, pour que tous les chômeurs obtiennent du travail et du pain, pour que les petits fonctionnaires et les retraités, les anciens combattants et les victimes de la guerre, les vieillards et les incurables cessent d'être frappés par les décrets-lois qui ont réduit les traitements, pensions et allocations.
Bien que passionné, la campagne est jugée sévèrement par le socialiste indépendant Marquet, maire de Bordeaux.
Qui sont vos adversaires, monsieur Marquet ?
Des réformistes sans réforme, des révolutionnaires sans révolution et des conservateurs qui ne conservent rien.
La droite, par la voix de Pierre Tétinger, dénonce la coalition du Front populaire.
On voudrait nous dresser les uns contre les autres. Ne nous laissons pas faire. Radicaux socialistes et communistes sont là en face de nous, réunis sous les plis du drapeau tricolore masqué par un immense drapeau rouge.
La gauche a mis l'accent sur les problèmes sociaux et la droite sur les dangers extérieurs et le péril hitlérien.
On vote le 28 avril et le 2 mai. Le Rassemblement populaire emporte une large victoire.
En cœur, amis, chantons la victoire du Front populaire. C'est dans l'humble maison l'espoir de vaincre la misère. Fini les profiteurs, car dans un geste magnifique, nos élus passent plein d'ardeur pour bâtir la vraie République.
Dans le même moment, Mussolini achève la conquête de l'Éthiopie et en proclame l'annexion.
Annuncio
al popolo italiano e al mondo che la guerra è finita.
Plus au Négus à y laisser l'acier qu'un recours bien illusoire à la Société des Nations de Genève.
Ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur en parlant à la Marie.
En France, dès que la victoire du Front populaire est acquise, débutent des grèves spontanées avec occupation des locaux.
Nous lutterons dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades ?
Oui !
Pour les revendications, hippipip !
Oui !
Hippipip !
Oui !
Hippipip !
Monsieur le chef, ma voix s'élève pour vous annoncer sans façon que nous allons nous mettre en grève. Ce que nous voulons, nous l'aurons.
Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez. Comment ? Alors, voulez-vous être augmenté de 1000 francs ? Vous acceptez ?
Léon Blum attend les délais légaux pour former son gouvernement au milieu de la paralysie totale du pays. C'est un réformateur modéré et non le révolutionnaire messianique que dépeint la presse de droite. D'emblée, il veut rassurer les bourgeois effrayés par les grèves et qui font fuir leurs capitaux.
Rendre confiance en elle-même à l'Europe pacifique, nous voulons rendre confiance en elle-même à la France laborieuse.
Mon épaule tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marine est là, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour.
Les accords Matignon, signés le 8 juin, constitue un armistice social qu'annonce Roger Salingros, le ministre de l'Intérieur.
Après de longues heures de pourparlers souvent difficiles, nous venons enfin d'aboutir à un accord. Dans le plus bref délai sera repris le travail. Le gouvernement est heureux d'avoir déterminé cette solution d'un conflit qui autorisait de lourdes craintes. Il se doit en toute équité, de rendre hommage au large esprit de conciliation dont ont su faire preuve les parties de prise.
Prenez garde, vous laissez abreuver les bourgeois, les gabis. La jeune garde, la jeune garde, qui descend sur le pavé.
C'est la lutte finale qui commence. C'est la revanche de tous les morts de faim. C'est la révolution qui s'avance. C'est la bataille contre les coquins.
Enfin, les grèves cessent. Les ligues de droite ont été dissoutes le 18 juin, comme le demandait Jacques Duclos.
Et grâce à nos efforts, que les travailleurs socialistes et communistes se sont retrouvés dans la bataille commune contre le fascisme. Bataille qu'il nous faut poursuivre pour imposer le désarmement et la dissolution des ligues fascistes qui jouent du revolver contre les ouvriers.
C'est pas son nom, je ne sais rien dire. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il n'est pas mardi dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire.
Le 14 juillet, c'est la grande fête populaire de la victoire après le défilé des troupes revêtues de leur nouvel uniforme kaki.
Nous vous demandons, et nous vous demandons à tous, votre confiance que vous nous devez tant que nous nous en montrerons dignes. Quand les chambres se sépareront, elles auront déjà traduit en réalité une large part de ce programme commun qui nous a permis de remporter ensemble la victoire électorale. Nous aurons édifié ensemble l'œuvre la plus importante, la plus significative qui ait été tentée dans ce pays depuis les débuts de la Troisième République.
Bientôt, ce sera le départ massif pour la première quinzaine de congés payés, ce qui marquera la fin de la phase dynamique du Front populaire.
Les difficultés financières et la crise espagnole vont en effet conduire à la rupture de fait de la coalition de gauche. Le 17 juillet, éclate au Maroc espagnol un soulèvement militaire qui s'étend aussitôt à toute la droite ibérique.
Unifiée sous le commandement du général Franco, l'insurrection menace dangereusement le gouvernement du Frente Popular.
Que la juventud española forzará, y la forzará porque lo está jurando con su sangre pródiga, porque lo está diciendo en los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan ¡Arriba España!
Tandis que l'on se bat férocement pour Madrid, se déroulent à Berlin les Jeux Olympiques, où les luttes des athlètes préfigurent les combats de la guerre mondiale.
Zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Comment douter à l'automne de 1936 que de sanglants lendemains ne se préparent? Faisant campagne pour sa réélection, Roosevelt ne dissimule pas son inquiétude.
To some generations, much is given. Of other generations, much is expected. This generation of Americans has a rendezvous with destiny.
Les puissances européennes ont signé un accord de non-intervention en Espagne, mais les Italiens et les Allemands aident presque ouvertement Franco. En France, les communistes réclament des canons, des avions pour l'Espagne.
Léon Blum doit refuser devant le double veto des Anglais et de ses partenaires radicaux.
Quand je lisais comme vous, dans les dépêches, le récit de la prise d'Andahirun et de l'agonie des derniers miliciens, est-ce que vous croyez par hasard que mon cœur était moins déchiré que le vôtre?
que le maintien du gouvernement légal de la République espagnole garantirait à la France, en cas de complications européennes, la sûreté de sa frontière pyrénéenne, la sûreté de ses communications avec l'Afrique du Nord. Je sais bien ce que chacun de vous souhaite au fond de lui-même. Je le sais très bien, je le comprends très bien. Vous voudriez que l'on arrive à une situation telle que les livraisons d'armes puissent être faites au profit du gouvernement régulier et ne puissent pas l'être au profit du gouvernement rebelle, au profit des forces rebelles. Naturellement,
il pleut sur la route, dans la nuit j'écoute, à chaque bruit mon cœur bat, ne viendras-tu pas?
Triste automne pour le Front populaire. Virtuellement brisé sur les problèmes extérieurs, il est acculé à la dévaluation en catastrophe par la fuite des capitaux et la chute du franc. La presse d'opposition déclenche une féroce campagne contre Salengro, qui se suicide.
Les journaux à sensation vont bientôt trouver une nouvelle pâture avec les démêlés sentimentaux du nouveau roi d'Angleterre, Édouard VIII, qui abdique en décembre.
And to discharge my duties as king, as I would wish to do, without the help and support of the woman I love.
On a son piqueur qui bat comme tout le monde. On soupire souvent tout bas comme tout le monde.
La Grande-Bretagne aura donc un autre roi, George VI. Celui-ci est couronné en grande pompe le 12 mai 1937.
In me, as your king, is vested for a time the duty of maintaining its honor and integrity.
D'entendre le texte de la déclaration que vient de faire le roi.
La France, elle, prépare ce couronnement du Front populaire que doit être l'exposition internationale de 1937, l'Expo, dont les chantiers immobilisés par la grève ont servi de tribune le 11 juin à Léon Jouot, le leader de la CGT, venu haranguer les ouvriers pour qu'ils reprennent le travail.
Des revendications restent à conquérir. Cependant, notons qu'un grand nombre est déjà, pour le mieux-être des classes travailleuses, entrées dans le domaine des réalités.
Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse, en douce, je me pousse.
Léon Blum lui a succédé à la tribune pour proclamer une confiance qu'il ne ressent plus. En effet, dès le 20 juin, il se retirera.
Ministérielle se termine, nous en commençons une autre, avec allégresse, avec confiance, avec fierté, sûr d'être soutenu par vous pendant cette seconde année, comme nous l'avons été pendant la première, et c'est ici, l'an prochain, à pareille date, que je vous donne rendez-vous.
Tout est permis.
L'ouverture de l'Expo est devenue une bataille du Front populaire contre le fascisme, ce qui explique l'appel du communiste Vaillant Couturier.
Paris, avec la belle ordonnance de ses monuments et de ses places, était bien le cadre idéal pour le développement de cette grande fête de la fraternité internationale. La France est un grand pays qui a souffert et qui n'ignore pas que c'est dans l'unité de ses forces vives que réside ce qui la rend éternelle.
Après de nombreux faux départs, l'expo est enfin ouverte, le 24 mai. Et les Français peuvent venir y oublier quelque peu leurs soucis. En effet, l'Espagne est devenue un champ de bataille international où l'on essaie les armes et les tactiques de la future guerre, comme le font méthodiquement les Allemands de la Légion Condor.
Dans le camp marxiste ont été formées des brigades internationales qui se sont illustrées à Guadalajara en mars 1937.
Mais on ne se bat plus seulement en Espagne. Depuis le 8 juillet, de sanglants combats opposent Japonais et Chinois. Japonais et Allemands sont unis depuis novembre 1936 par un pacte anti-Comintern dirigé contre l'URSS où Staline affermit sa dictature par les sanglants procès de Moscou.
La France est assaillie de doutes sur son avenir, sur la voie qu'elle doit suivre, sur sa force. Quelle est la force française, selon le successeur de Blum, Camille Chautemps?
Elle est composée d'éléments divers, mais elle est par-dessus tout dans le spectacle que nous devons donner de notre union, de notre discipline, de notre amour du travail.
Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident...
Cette force, il va falloir, hélas, en faire bientôt la démonstration. Car le cours des événements se précipite depuis le début de 1938, lorsque le chancelier autrichien Schuschnigg est convoqué par Hitler à Berchtesgaden le 12 février.
Schuschnigg aux abois décide brusquement le 9 mars un plébiscite sur l'indépendance pour le dimanche suivant, 13 mars. La réaction de Hitler est immédiate. Le vendredi 11 mars, il exige l'ajournement du plébiscite et le renvoi de Schuschnigg. Celui-ci annonce le soir même sa démission devant la force.
Je verabschiede mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volke mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch. Gott schütze Österreich!
Quelques heures plus tard, les troupes allemandes, appelées par le nouveau chancelier, Seyss-Inquart, entrent en Autriche, sans résistance et bien souvent acclamées. Le 15 mars 1938, du balcon du palais impérial de la Hofburg de Vienne, l'Autrichien Adolf Hitler annonce l'entrée de son pays natal dans le Reich unitaire de la Grande Allemagne.
Meldig vor der Reichsgeschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich!